France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le gouvernement conteste systématiquement les rapports d'études des instituts de recherche et de surveillance de la déforestation dans la région amazonienne. C'est une politique écervelée.
On assiste à la grande rencontre entre deux groupes qui ont la même philosophie, les bolsonaristes qui sont au Parlement et les chercheurs d'or. Et les chercheurs d'or sont unanimes dans leur soutien à Bolsonaro. Ils le voient comme un sauveur.
On ne peut pas se laisser faire. On va résister, on ne peut pas reculer. On part en lutte, comme les anciens, jusqu'au dernier Indien.
La semaine dernière, 7 pays amazoniens, dont le Brésil, ont signé un pacte pour la protection de la plus grande forêt tropicale du monde. L'occasion pour Jair Bolsonaro de réaffirmer la souveraineté de chacun des pays amazoniens et de rejeter toute interférence étrangère. Le président brésilien n'a pas digéré les critiques que lui ont adressées plusieurs pays, notamment la France, au sujet de sa politique environnementale. En témoignent les déclarations de son ministre des Affaires étrangères ce mercredi. Les convoyeurs de l'idéologie du climatisme, a déclaré Ernesto Araújo, veulent créer un équivalent moral à la guerre pour imposer des politiques et des restrictions qui vont à l'encontre des libertés fondamentales. Cette semaine, deux États brésiliens, le Mato Grosso et le Mato Grosso du Sud, ont déclaré l'état d'urgence pour contrôler les feux de forêt qui touchent le Pantanal, sanctuaire de biodiversité. Mais pour l'exécutif brésilien, il n'y a aucune catastrophe liée au changement climatique. La priorité de Jair Bolsonaro, c'est la relance économique. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier dernier, la politique environnementale brésilienne a opéré un virage à 180 degrés. En 9 mois, la déforestation a bondi de près de 70%. Le nouveau gouvernement a autorisé l'utilisation de plus de 150 nouveaux pesticides et l'orpaillage illégal revient en force. Bolsonaro, l'Amazonie en ligne de mire, c'est un reportage signé Olivier Poujade et Gilles Gallinaro. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Yves Saint-Jour. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été ambassadeur de France au Brésil jusqu'en 2012 et vous présidez actuellement l'Institut des Amériques. Avec nous également depuis Rennes, dans les locaux de France Bleu Armorique, Vincent Dubreuil. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, professeur des universités à Rennes 2. Ensemble, nous allons d'abord écouter le reportage d'Olivier Poujade. Olivier, vous vous êtes rendu dans l'un des États amazoniens du Brésil, le Roraima.
Oui, on a choisi le Roraima, qui est à l'extrême nord-ouest du Brésil, et sa capitale, Boavista. Boavista parce que c'est une ville intéressante, selon moi, qui illustre bien, en ce moment, l'opposition qui existe au Brésil entre deux catégories de personnes. Une opposition qui s'est durcie depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro. D'un côté, vous avez les exploitants agricoles, les propriétaires terriens, les éleveurs et les chercheurs d'or. La richesse, d'ailleurs, assez relative de Boavista, bâtie quelque part sur l'activité de ces gens-là. Et de l'autre côté, vous avez toutes les communautés indigènes de cet état du Roraima, tous les agents, les scientifiques aussi de l'environnement qui se retrouvent aujourd'hui un peu en position de faiblesse depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président.
Et vous nous emmenez tout de suite, Olivier, au cœur de ce territoire Yanomami, sur les bords du fleuve Uraricuera.
Nous allons survoler une zone d'orpaillage en amont de la communauté de Huaycas. C'est là où se trouve la plus grande concentration de chercheurs d'or actuellement. Ce sont des campements, pratiquement des petites villes, que l'on va survoler pendant une trentaine de minutes à partir de Huaycas. Plusieurs secteurs qui sont exploités par les orpailleurs.
Là, nous sommes en train de survoler vraiment l'un des plus gros garimpos, l'une des plus grosses mines d'or du territoire Yanomami. Donc là, on aperçoit effectivement, après des kilomètres et des kilomètres de forêt, on aperçoit des taches jaunes qui contrastent complètement avec le vert, évidemment, des arbres et de la forêt native. Une terre qui est creusée, je dirais, à plusieurs mètres de profondeur. On aperçoit aussi des arbres morts avec des petits lacs, des étangs d'eau stagnante de couleur verte. Beaucoup de forêts mortes à côté de ces mines d'or. Très certainement, ça il faudra le confirmer, le résultat des produits qui sont utilisés par les chercheurs d'or. On parle évidemment d'essence, d'huile de moteur pour extraire l'eau et arriver à creuser dans le lit des rivières, mais également du mercure utilisé par les chercheurs d'or pour faciliter l'amalgame de l'or quand il se trouve soit dans la terre, soit dans la roche. Paysage complètement ravagé, en plein milieu de la forêt native amazonienne, et des campements qui apparaissent, des centaines, je dirais, de campements qui apparaissent installés au bord du fleuve Uraricuera.
Chaque jour, il y en a d'autres qui arrivent, parce que ceux qui viennent ici vont ensuite en ville avec l'or qu'ils ont trouvé pour le vendre, acheter une voiture ou autre chose. Automatiquement, son voisin qui est au chômage dans une situation difficile va vouloir y aller pour obtenir la même chose. C'est ça la philosophie. Plus il y en a qui arrivent avec de l'or à Boavista, plus il y en a qui voudront venir ici pour s'enrichir, comme le font leurs voisins ou une personne de leur famille. C'est un réflexe naturel.
Vous trouvez que la nature se dégrade, la forêt, le fleuve ?
En ce moment, oui, tout le monde vous le dira. Les bords du fleuve et la forêt sont très abîmés, chaque jour un peu plus, et la tendance veut que ça s'aggrave. Donc soit on légalise en imposant des règles, en les faisant respecter par la police, on le fait dignement, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Chacun veut tirer profit sans avoir de responsabilité. Pour moi, c'est la plus grande erreur. Boavista traverse une période de crise. Il n'y a pas d'emploi, pas d'industrie. Si on ne fait rien, ça deviendra pire.
Donc pour vous, la volonté du nouveau président d'ouvrir ses terres à l'exploitation minière, c'est une bonne idée ?
Je ne pense pas qu'il légalise de cette manière. Il faudrait être fou pour le faire comme ça.
Mais il encourage les gens, non ?
Non, il dit qu'il est en faveur de l'exploitation minière.
Donc il les autorise.
Oui, mais il ne dit pas comment il va vraiment légaliser. Je pense qu'il y aura des règles et que la police, les agents de l'environnement, l'armée seront chargés de les faire respecter. Il doit y avoir dans cette région entre 5 et 6 000 chercheurs d'or. C'est déjà énorme. Mais d'après moi, ça ne peut pas continuer comme ça. Personne ne mérite ça. La nature, les Indiens, personne ne mérite ce qui est en train d'arriver.
À quelques kilomètres en aval de la mine, la communauté de Huaycas. Felipe y est instituteur depuis 14 ans.
L'eau du fleuve est totalement souillée. C'est la boue qu'il déverse dans la rivière. Vous savez, les grands cratères que vous avez survolés. Toute la terre va dans l'eau.
C'est juste de la boue ?
Oui, de la boue. On nous dit qu'il y a d'autres choses, comme du mercure. Mais ça, on ne peut pas le voir. On n'arrive plus à pêcher. C'est difficile de se laver. Et les animaux dans la forêt ont tous fui. Ils venaient au bord de l'eau, mais avec le trafic des bateaux, avec des gros moteurs, on ne peut plus rien chasser.
Les conséquences sur la santé des populations sont aussi préoccupantes. Bernaldo est infirmier, il nous reçoit dans son petit centre médical qui jouxte la piste d'atterrissage.
Aujourd'hui, plus personne ne consomme l'eau du fleuve. Avec la multiplication des mines d'or, on a vu de plus en plus de cas de diarrhée, de grippe, de maladies comme la malaria aussi.
Il y a de la malaria donc ?
Oui, on a des cas de malaria. Avant, il n'y en avait pas ici. Mais avec les mines, elle s'est installée. Je ne vois pas comment tout ça peut s'arrêter. Il y a tellement de gens impliqués dans ces mines, des étrangers. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Avec notre président qui encourage tout ça, on ne peut pas dire non.
Le paludisme, la malaria, se développe autour des eaux stagnantes qui s'accumulent dans les cratères creusés par les orpailleurs. plus inquiétant, le taux de contamination au mercure. À Huaycas, 92% des habitants seraient empoisonnés, chiffre révélé par la fondation brésilienne Oswaldo Cruz. Paulo Basta est spécialiste des populations indigènes. Nous lui présentons les images de notre survol de la mine d'or.
C'est triste, non?
Ce
deuxième plan est une image qui est encore plus effrayante. Elle illustre clairement la dimension de l'impact de l'exploitation minière en Amazonie. C'est une région qui souffre de l'orpaillage illégal depuis des décennies. Il y a eu une ruée vers l'or à la fin des années 70, début 80. Et à cette époque, il y avait plus de 40 000 orpailleurs sur le territoire Yanomami. Quatre chercheurs d'or pour un Indien, ce qui a provoqué un taux de mortalité très élevé dans les communautés. Maladies respiratoires, grippe, malaria. Et puis le gouvernement brésilien a pris des mesures drastiques pour sortir les orpailleurs de la zone.
Opération militaire,
destruction de pistes d'atterrissage
clandestines.
L'activité a diminué. Mais elle s'est même arrêtée pendant quelques temps. De nouveau, avec la crise économique mondiale, 2008-2009, le phénomène est revenu. Et il s'intensifie avec la politique du nouveau gouvernement. On observe que ce gouvernement mène une politique clairement hostile à l'environnement. Bien sûr, on ne voit pas ça d'un bon œil. C'est très mauvais pour l'avenir écologique du pays, pour sa réputation. C'est une politique de démantèlement de l'environnement. Le gouvernement conteste systématiquement les rapports d'études des instituts de recherche et de surveillance de la déforestation dans la région amazonienne. C'est une politique écervelée qui inquiète un peu tout le monde, la communauté internationale, les chercheurs et une grande partie de la population brésilienne. Sur le plan légal, les terres indigènes sont propriété de l'Union. Les indigènes ne sont que les gardiens de ces territoires. Mais il y a donc toute une législation dans le cadre de la Constitution citoyenne de 1988 qui défend les peuples traditionnels, leur culture, leur langue, leurs coutumes. Tout cela est directement lié à la préservation du territoire. Ça va plus loin que leur lieu de naissance ou de résidence. Et donc il y avait, ou plutôt il y a, une législation très claire sur ce plan à la disposition du gouvernement brésilien. La Fondation Nationale de l'Indien, la FUNAI, est l'institution en charge de cette question territoriale. C'est elle qui a la responsabilité de la régularisation de ces terres. Mais au sein du gouvernement actuel, il existe une frange qui s'y oppose clairement, qui a tenté plusieurs fois de retirer à la FUNAI ses compétences, de retirer l'institution du ministère de la Justice, qui est son ministère de tutelle. Bref, nous traversons une période d'incertitude au Brésil. Toutes ces protections légales sont remises en question, mises à l'épreuve. Les mesures qui sont prises sont arbitraires. Tous les employés, les gens honnêtes qui travaillent dans ce secteur, vivent dans une certaine anxiété. Ils pensent à leur carrière, à leur emploi, à leur famille, et préfèrent ne pas prendre position ou dénoncer ce qui arrive.
J'ai déjà été chercheur d'or. Le Brésil ne serait rien sans les chercheurs d'or.
Avant même d'être élu, Jair Bolsonaro affirmait qu'il ne céderait pas un centimètre supplémentaire de terres indigènes et que celles déjà reconnues, 13% du territoire brésilien, seraient ouvertes à l'exploitation minière.
De temps en temps, je retourne chercher de l'or. L'orpaillage, tu l'as dans le sang. C'est comme un vice. Si j'en avais l'opportunité, j'irais sans hésiter.
Ici, dans le nord du Brésil, depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, une nouvelle ruée vers l'or se profile. Près de 10 000 personnes se seraient installées dans des campements le long des fleuves. John Boyle est écossais. Il a été chercheur d'or pendant près de 40 ans. Aujourd'hui, il organise l'approvisionnement des orpailleurs depuis la ville de Boa Vista.
Un collègue que je connais 25 ans, J'ai une collègue que je connais depuis 25 ans. En deux mois seulement, pour la première fois, elle a pu s'offrir sa maison pour 70 000 euros.
72% des électeurs de l'État du Roraima ont voté pour Jair Bolsonaro à la présidentielle de 2018.
Les chercheurs d'or ont décidé de retourner à la mine pour voir ce qui allait se passer. Ils considèrent aujourd'hui qu'ils ont un ami à Brasilia. Ils y ont peut-être 1000 ennemis, mais maintenant ils ont un ami, et c'est le plus influent. Dans ses discours politiques, Bolsonaro estime que les Brésiliens ont le droit d'exploiter le territoire national. Et il parle beaucoup du Roraima. Je n'ai jamais entendu un président parler autant du Roraima. On a eu une succession de présidents dont le nom de Roraima n'est jamais sorti de la bouche. Lui, il ne parle que de Roraima.
Il en parle pourquoi ?
Pour son potentiel, dire ce que l'État pourrait offrir comme opportunité, comment la région a été mal administrée, comment elle a été verrouillée par les environnementalistes, les anthropologues, des trucs comme ça. Lui, instinctivement, il se dit « Oh, tout ça, c'est les gauchistes qui ont laissé le Roraima dans cet état ». On assiste à la grande rencontre entre deux groupes qui ont la même philosophie, les bolsonaristes, qui sont au Parlement, et les chercheurs d'or. Et les chercheurs d'or sont unanimes dans leur soutien à Bolsonaro. Ils le voient comme un sauveur, le sauveur de la patrie.
Donc là, on vient de prendre le bateau sur la rivière Uraricuera. On vient de quitter la communauté de Huaycas et on se dirige vers un barrage de l'armée. Si tout est calme aujourd'hui, d'après ce que nous disent les gens de la communauté ici, c'est parce que justement l'armée, depuis quelques jours, a décidé d'installer des barrages pour fermer l'accès à la mine d'or des chercheurs d'or sur cette rivière. Et il y a eu d'ailleurs, il y a deux jours, un incident entre l'armée et ces garimperos, comme on les appelle, ces chercheurs d'or, où deux embarcations se sont percutées. En fait, le fait d'être attiré par la mine d'or et le fait de se sentir presque en toute impunité après les déclarations du président de vouloir ouvrir ses territoires à l'exploitation de l'or, ces annonces-là mettent dans une certaine confiance les chercheurs d'or qui n'hésitent même pas à foncer sur les embarcations de l'armée et à franchir ces barrages.
Depuis son centre de commandement à Boavista, le général Bessa dirige la première brigade d'infanterie de la forêt. Il rappelle avant toute chose que les forces armées doivent agir dans le cadre de la Constitution.
Ici, dans cet État, l'activité d'orpaillage est très importante. Notre rôle, c'est d'essayer de l'interdire sur les terres indigènes et dans les réserves naturelles, car ce que font les chercheurs d'or a un impact très fort sur l'environnement. Nous combattons ce flux en permanence. Notre but, c'est de faire disparaître ces mines des terres indigènes. L'armée a d'excellentes relations avec les communautés indigènes. Tout au long de l'année, lorsqu'on patrouille pour surveiller les frontières, l'agenda prévoit des visites dans les communautés. Et on organise une forme de troc, en donnant par exemple des médicaments, et eux nous transmettent des informations. Nos relations sont respectueuses et très positives. C'est extrêmement important, fondamental même, pour assurer la défense et la sécurité du territoire. Parce que ces peuples brésiliens qui sont là-bas dans la forêt sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Et ces informations sont importantes pour notre défense.
Lua cheia, lua cheia, lua Você é mais linda que um corpinho de sereia. Lua cheia, cheia, cheia.
Sem falar.
Lua cheia,
tá.
Cheia,
tá bom?
Só dirigir.
Tranquilo.
Nouveau départ de Boa Vista, cette fois-ci vers le nord, vers la terre indigène Raposa Serra do Sol. Des délégations de jeunes indiens doivent s'y retrouver. Sur la route, plus d'une centaine de kilomètres de ligne droite, Harry nous accompagne. Il est ingénieur agronome à l'IBAMA, Institut brésilien de protection de l'environnement. Il nous guide à travers le Lavrado, une savane qui se développe tout autour de la forêt amazonienne.
Ils ne considèrent pas le désmatement parce que...
Ici, ils ne considèrent même pas ça comme de la déforestation. Selon moi, c'est une erreur. Parce que la savane est un écosystème à part entière. Donc, n'importe quel dégât provoqué devrait être considéré comme une déforestation de la savane. Mais ceux qui décident de ça sont les agents de l'Embrapa, l'entreprise brésilienne de recherche agronomique. Ils jugent qu'ici, c'est une terre exploitable et pas le plus grand écosystème de savane amazonien. Ils considèrent cette terre comme le Cerrado du centre-ouest brésilien et veulent en faire la même chose, une frontière agricole. Mais c'est un point de vue que je ne partage pas. C'est l'intérêt économique qui prime, sous la pression des lobbies agricoles, très puissants ici. Regarde, avant c'était comme ça. Mais ici, on voit déjà que les arbres les plus grands ont été arrachés pour préparer la parcelle avec du grillage, faire entrer les tracteurs et planter du soja, planter des céréales. Et regarde la différence. Ces arbres ont été déracinés pour que les machines puissent travailler. Et là, on arrive devant une exploitation de soja. On voit les silos. C'est toute une infrastructure de grosses entreprises. Alors ici, ils utilisent du dessécant pour tuer tout.
Du dessécant, qu'est-ce que c'est ?
C'est un herbicide.
C'est un herbicide. C'est Monsanto. C'est pour préparer la terre. Et cette première étape donne déjà plus de valeur à la terre. La valeur par hectare est plus élevée. Tout ça se développe. C'est de la spéculation, comme la spéculation immobilière pour gagner de l'argent. La terre ne perd pas de sa valeur. L'IBAMA, où je travaille, est chargé de protéger les terres de la Fédération. Mais il redistribue aussi des parcelles à l'État. Et le gouvernement de l'État a une toute autre politique sur l'attribution des zones économiques écologiques, qui fait l'inventaire qui détermine l'usage que l'on peut ou doit faire des terres. Et ici, ils ont décidé justement d'utiliser ces terres comme si c'était du Cerrado et d'y appliquer la technologie du Cerrado.
On parle de quelle technologie ?
La technologie du Cerrado. Le Cerrado dans le centre-ouest brésilien, dans le Mato Grosso, il y a encore 40 ans, tu ne pouvais rien y planter. C'était super acide. Le pH était très acide. Des ingénieurs américains et de l'Embrapa ont beaucoup investi en recherche, jusqu'à se rendre compte qu'en utilisant du carbonate de calcium et en le mélangeant avec des engrais chimiques, cette terre devient super fertile. Autrement dit, une terre qui n'était pas fertile et ne valait rien, avec la découverte de cette technologie, elle a d'un coup pris beaucoup de valeur. Eh bien ici, c'est ce qui se passe. Et en plus, ça ne peut pas se faire sur des petites surfaces, ça doit se faire sur des grandes parcelles, car la marge est faible. Mais en additionnant tout ça, ça représente beaucoup d'argent.
On utilise beaucoup de pesticides ici.
Bon, rien que cette année, ils ont autorisé plus de 150 nouveaux produits. Si on fait l'addition, il doit y avoir ici plus de 300 types de venins répandus sur ces terres. Les insecticides, les fongicides. Le soja attire beaucoup les champignons et les herbicides pour tuer les herbes qui pousseraient. Tout ça pour laisser sortir uniquement le soja. Le soja Clean. Regarde ici, c'est du maïs. Ils plantent aussi du sorgho et du mil, parce que ces cycles sont plus courts. Enfin bon, tout ça, ce sont des céréales destinées à l'alimentation animale.
Le paysage édénique du lac Karakarana, un soleil brûlant, autour de l'agora, des abris en bois sous lesquels sont installés les hamacs des communautés réunies. Makushi, Taorepangi, Yanomami, Waiwai, une dizaine de délégations de jeunes indigènes se retrouvent ici. Cette année, l'arrivée du nouveau gouvernement est au centre des discussions. Une centaine de représentants écoutent attentivement. À la tribune, Joenia Wapichana, première députée indigène de l'histoire du Brésil, elle reprend les déclarations de Bolsonaro et met en garde l'Assemblée.
Nous allons intégrer les Indiens à la communion nationale. C'est grave ça, parce que ça nous replonge en arrière, à l'époque de la dictature militaire, quand ils refusaient d'accepter notre différence culturelle. Quand il considérait que les indigènes devaient devenir blancs, abandonner son identité d'indien, est-ce que c'est possible ça? Mais cette pensée existait et elle existait dans les lois. Les terres indigènes ne portaient pas ce nom, on les appelait des réserves. Ils choisissaient un endroit pour parquer les Indiens pour ne pas empêcher le développement du pays. C'est ce qu'il disait. Encore aujourd'hui, ces idées se répandent. Ça fait 32 ans que notre constitution a été écrite et ce genre d'idéologie revient. Nous devons faire très attention. L'intégration de l'Indien à la communion nationale. Notre constitution nous a permis d'obtenir notre droit le plus fondamental. Le droit à la terre, c'est l'article 231. Il dit que les coutumes, les traditions des Indiens doivent être reconnues et que l'Union doit délimiter, protéger les terres traditionnelles et faire respecter les biens qu'elles contiennent. L'Union, personne d'autre. Le gouvernement, le pouvoir exécutif décide des limites et protège les terres traditionnelles. Les protéger de quoi ? Des intrusions, de l'entrée des chercheurs d'or, des trafiquants de bois, des braconniers. Quelle qu'elle soit, la personne qui pénètre sur ces terres doit avoir une autorisation. Protéger les biens. Quels sont ces biens? Les terres, les ressources naturelles, l'eau, les sous-sols, la vie. Tout ce que nous avons conquis avec cette constitution est menacé aujourd'hui, avec ce gouvernement Bolsonaro. Vous savez quel est le plan du gouvernement aujourd'hui? Il propose que les communautés indigènes louent une partie de leurs terres pour qu'elles gagnent un peu d'argent. Mais est-ce que c'est ça la solution pour le développement du pays? Vous voulez louer vos terres? Mais vous savez, ils utilisent nos propres frères pour nous manipuler. Ils embrigadent certains chefs pour faire le tour des communautés et dire « Ah mais vous n'avez pas de quoi vous nourrir? Vous n'avez pas de voiture? Vous n'avez pas grand-chose? Et vous avez une terre pleine de minerais juste ici? Vous pourriez en tirer profit ou louer aux producteurs de riz pour gagner de l'argent? Mais est-ce qu'on y gagnerait vraiment? Donc ils viennent chez nous pour nous diviser. Et nous, devons aussi ouvrir le débat sur l'exploitation minière. Quelle est notre position par rapport à ça? On doit en discuter, parce que le jour viendra et le gouvernement met la pression pour que ce jour arrive très vite.
Daniel est l'héritier du chef de la communauté du Morcego, dont la taille se réduit peu à peu chaque année.
Notre terre, c'est une île. Le soja d'un côté, les exploitations agricoles de l'autre. On est encerclé. On n'a même plus un lac. Donc on doit traverser les terres des fermiers pour demander de pêcher, de chasser parfois. Et très souvent, ils menacent de nous tuer. L'autre jour, j'étais en train de pêcher avec mon frère et mon beau-frère. On était en train de lancer le filet. Et le fermier est arrivé et nous a dit que si on ne partait pas, il allait nous tuer. On se sent menacé. C'est triste, mais c'est notre lutte. Notre combat, c'est de résister. Et avec ce nouveau gouvernement, ils sont encore plus agressifs. Le changement de politique a rendu notre situation plus critique. Notre communauté devient de plus en plus petite. Ça nous fait peur, en fait. J'ai peur, mais je ne le montre pas.
Ils entrent dans la communauté, alors. Ils essaient de gagner du terrain.
En ce moment même, ils viennent d'installer un bâtiment sur nos terres. Mais la Funai n'a encore rien fait. Cette maison, c'est un bar où ils vendent de l'alcool. Et ça amène des problèmes dans la communauté. Certains y vont et reviennent au village, ils agressent leurs femmes, ils se battent avec leur père ou leur fils. C'est un problème. Il y a aussi un chantier qui empiète sur la communauté. Ils jettent leurs déchets, coupent les arbres et volent le bois de notre terre. Et puis le soja est arrivé, juste à la limite de notre terre. Je ne parle pas d'un kilomètre ou de 10 mètres, mais il est collé à nous.
Les gens veulent vraiment s'unir maintenant que le nouveau gouvernement et Bolsonaro sont là.
C'est compliqué. C'est un problème qu'on a chez nous. Parce que quand on veut protester, certains ne viennent pas nous soutenir. Ils ont peur. Mais ça ne sert à rien d'être deux ou trois à lutter et que les autres ne suivent pas. La municipalité de Boa Vista a lancé un programme il n'y a pas longtemps qui nous a divisés. Parce qu'elle nous a poussés à participer à un projet d'ensemencement sans que l'on soit protégé. Les gens de ma communauté prennent ce venin et le sèment à main nue. Sur leur site, ils disent qu'ils fournissent un tracteur, mais ce n'est pas vrai. Ce sont les gens de chez moi qui répandent ces pesticides, sur le maïs, sur les haricots. C'est très mauvais pour leur santé.
Et ils ne se plaignent pas, ils y vont ?
Ils y vont, sans rien dire. Ça crée une certaine confusion entre nous. On leur explique, mais ils s'en fichent. Ils défendent même la mairie. On ne peut pas répandre les pesticides à la main. Quand on le fait, on a les mains qui brûlent. Il y a même les enfants qui jouent avec. On ne peut pas se laisser faire. On va résister, on ne peut pas reculer. On part en lutte, comme les anciens, jusqu'au dernier Indien. Et il faut qu'on s'unisse vraiment pour gagner cette bataille. Une de plus.
C'est important de comprendre ce qu'il est en train d'arriver dans ce Brésil. Cette immense haine dirigée contre les Indiens depuis l'élection. Mais on ne va pas s'endormir, non. D'ailleurs, aujourd'hui, 4 partis sont déjà à l'œuvre pour mener des actions. Le mien a été le premier. Le réseau développement durable a mené un recours d'inconstitutionnalité parce que modifier une ordonnance sur un sujet qui a déjà été apprécié, jugé, décidé, c'est anticonstitutionnel, c'est illégal. Il le sait. Le gouvernement dit qu'il ira devant la Cour suprême. Il peut y aller. Il ne gagnera pas. On va le démontrer et il sera de nouveau débouté.
Tem que ter fé, nego, porque nela que estão as nossas forças. Tem que querer, querer lutar pelo povo e ser o que é na multidão. Você não é o melhor, mas pode agir como ela. Sempre com humildade, raciocínio consciente. Grave isso em sua mente. Posso fazer rap, cantando, rimando, pedindo pela demarcação.
Bolsonaro, l'Amazonie en ligne de mire, un grand reportage d'Olivier Poujade et Gilles Gallinaro avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
En studio avec nous pour compléter ce reportage, l'ancien ambassadeur de France au Brésil, Yves Saint-Jour, président de l'Institut des Amériques, et le climatologue Vincent Dubreuil, spécialiste de l'Amazonie, se trouve lui dans le studio de France Bleu Armorique à Rennes. Alors, on entend dans ce reportage la très forte inquiétude des indigènes. À quel point est-elle justifiée, Yves Saint-Jour ? Sont-ils vraiment menacés par la politique actuelle ?
Bien, de fait, les indigènes avec... Le gouvernement brésilien avait, depuis la constitution de 1988, qui scellait le retour à la démocratie, avait un certain nombre de garanties, et notamment ces terres qui représentent presque 1 million de kilomètres carrés et donc 12,5% de la superficie du Brésil et des conditions d'exploitation de ces terres, de relations avec l'État. Et il semble effectivement que cet équilibre, qui a été consolidé pendant les décennies suivantes dans une relation qui n'était pas toujours facile, mais qui était une relation institutionnelle, cet équilibre, il soit aujourd'hui effectivement mis en péril. Parce que si l'exploitation de ces terres n'est pas contrôlée, régie par un certain nombre de principes, évidemment, ce péril existe.
Est-ce que Jair Bolsonaro entend quand même une partie de leurs revendications ?
C'est-à-dire qu'il y a une société civile forte au Brésil et il y a aussi un juridisme qui est important, y compris il est arrivé dans les années précédentes que ces communautés puissent rentrer dans un dialogue avec l'État sur un pied de force et de respect. Donc, M. Bolsonaro ne peut pas tout faire au Brésil et son pouvoir est limité. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a une dynamique négative qui s'est engagée, ça ne fait pas de doute.
Vincent Dubreuil, à quelle vitesse la déforestation progresse-t-elle en Amazonie ?
Alors, cette année, on a eu des chiffres assez alarmants sur la reprise de la déforestation. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup fluctué au cours du temps en fonction de divers enjeux, qu'ils soient économiques, mais aussi en fonction de la politique du gouvernement brésilien. La déforestation a connu un pic en 2004, donc avec une croissance régulière jusqu'en 2004. On a atteint un maximum de 27-28 000 km², donc pour donner une idée, c'est à peu près la superficie de la Bretagne. Puis la déforestation a considérablement diminué par la suite sous l'action de divers politiques et aussi divers enjeux économiques pour atteindre un minimum en 2012 entre 4000 et 5000 km². Et puis depuis, il y a une légère reprise qui s'est amorcée avec des taux annuels sur les 3 dernières années qui étaient entre 7 et 8000 km², c'est-à-dire à peu près un grand département français. Et puis vraisemblablement cette année, avec les derniers chiffres qui sont en train d'arriver, il est probable qu'on sera autour de 10 000 km², c'est-à-dire qu'on sera revenu à des niveaux qu'on n'avait plus connus depuis 2004.
Mais alors Vincent Dubreuil, le Brésil assure qu'il combat la déforestation illégale et que les incendies dont la communauté internationale s'est récemment inquiétée, c'est un phénomène saisonnier, phénomène qui ne serait pas pire cette année que les années précédentes, c'est vrai ?
Alors, tout dépend de la période de référence que l'on prend. Effectivement, les incendies en Amazonie et dans les savanes sont une dynamique saisonnière qui est liée à la présence de la saison sèche. Pour que la végétation brûle et brûle bien, il faut qu'on attende que la saison sèche soit installée. Donc, c'est vrai que chaque année, l'Amazonie ou le Cerrado brûle davantage pendant la période en gros qui va de mai, juin jusqu'à septembre, octobre par rapport au reste de l'année. Alors ceci dit, quand on regarde les chiffres de cette année, on a une augmentation énorme, un doublement, voire plus, par rapport aux 2 ou 3 dernières années. On n'atteint pas forcément le niveau qu'on a connu lors des grandes sécheresses de 2005-2010 ou les grands incendies qu'il y avait lors de la phase massive de déforestation dont je parlais juste avant, jusqu'à l'année 2004. Donc c'est relatif par rapport à la période qu'on prend en compte. Mais en tout cas, pour les 2 ou 3 dernières années, on est effectivement à des chiffres qui sont assez alarmants.
Alors Yves Saint-Jour, la priorité pour Jair Bolsonaro, lui, c'est de relancer l'économie. C'est comme ça qu'il justifie ce qui se fait actuellement. C'est effectivement cette relance de l'économie un enjeu très fort pour le Brésil.
Oui, c'est un enjeu très fort pour le Brésil parce qu'effectivement, il a connu jusqu'au début des années 2010, 11, 12, 13, une vraie embellie économique avec des taux de croissance élevés. Et puis après, en 2015-2016, des taux de croissance négatifs qui, pour évidemment un pays émergent, sont très durs et qui ont relancé, dans une certaine mesure, des éléments de paupérisation. C'est vrai. Mais aussi, l'économie du Brésil, c'est transformé, y compris au temps de l'embellie, puisqu'il est devenu, il est redevenu d'une certaine façon un exportateur massif de produits de l'agriculture et de produits miniers. Et donc, c'est devenu un élément très structurel de l'économie brésilienne, même si c'est d'abord un grand marché intérieur qui n'est pas tellement ouvert vers l'extérieur, plutôt que moins que d'autres pays, mais le premier poste d'exportation aujourd'hui, c'est le soja. Et de loin, et ça augmente tout le temps. Et après, suivi par des produits miniers ou des produits agricoles, le café, le sucre, pour les produits miniers, le pétrole ou le fer. Et donc, évidemment, c'est tout à fait fondamental. Et les taux de croissance sont encore faibles après cette dure crise qui est arrivée. Et donc, c'est 1, peut-être 2% cette année. Et donc, c'est vrai qu'il y a cet enjeu économique très fort. Alors maintenant, dans la période passée, et de fait, la déforestation n'a pas commencé du tout avec Bolsonaro. Et on parle beaucoup de l'Amazonie et on a raison d'évoquer le Cerrado, c'est quelques 2 millions de kilomètres carrés. Quand on est à Brasilia, c'est autour, qui ont été largement défrichés, mis en culture, etc. Et donc, c'est un front pionnier, en quelque sorte, qui avance. Mais, de fait, cet élément de production de matières premières, agricoles ou d'élevage extensif de bovins, notamment, tout ça, évidemment, c'est le cœur actuellement de la croissance brésilienne. Et donc, c'est un peu le discours qui est donné par le gouvernement.
Mais donc, compte tenu de cette configuration, est-ce qu'il serait possible de booster l'économie brésilienne autrement, sans nuire à l'environnement ?
Ce qui s'était fait, c'est que précisément, il y a eu, pendant les années qui ont précédé, parce que c'est un pays à la fois du Nord et un pays du Sud, le Brésil. Et donc, il y avait à la fois un ministère de l'Agriculture qui appuyait l'agro-business. Il ne faut pas dire que l'agro-business n'a jamais été appuyé. Et un ministère du Développement Rural qui appuyait, lui, d'autres façons de produire. Effectivement, la possibilité d'accès à la terre pour des paysans plus pauvres, la question des communautés indigènes, etc. Et donc, il y avait une espèce d'effort de faire une croissance économique, de ne pas négliger l'agriculture, loin de là, mais de prendre en compte en quelque sorte davantage ces équilibres qui sont à la fois les équilibres écologiques globaux et les équilibres sociaux.
Alors en plus aujourd'hui, les exploitants agricoles représentent une grande partie de l'électorat de Jair Bolsonaro, donc il s'agit aussi de ne pas les décevoir.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, de fait, il y avait dans la perspective de cette élection et de la politique qui allait s'en suivre, le fait qu'on allait permettre plus facilement la mise en culture et le développement de ces espaces.
Alors, autre élément, Vincent Dubreuil, c'est que Jair Bolsonaro est très clairement climato-sceptique.
Oui, d'ailleurs, le Brésil devait accueillir la prochaine conférence des partis. Finalement, il s'est désisté et c'est parti au Chili, si ma mémoire est bonne. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Monsieur Saint-Jour, qui est important, c'est qu'on a une grande diversité en Amazonie. C'est-à-dire qu'on parle de l'Amazonie, mais il faudrait parler des Amazonies. Mmh. Et les divers gouvernements brésiliens, jusqu'à l'actuel, ont mis le curseur plus ou moins sur le développement de telle ou telle activité, avec des priorités qui ont pu bouger. Mais quand on va sur le terrain, ce que montre bien le reportage, c'est qu'on a une diversité d'acteurs, on a une diversité de types de mise en valeur. Il y a également beaucoup de projets de développement un petit peu innovants avec des systèmes agroforestiers, etc., etc. Et ce qui apparaît effectivement depuis l'arrivée du gouvernement Bolsonaro, c'est la volonté d'appuyer un secteur plus particulièrement et au détriment des autres.
Mais cette diversité d'acteurs fait que c'est sans doute une situation de toute façon difficile à gérer.
Sans aucun doute.
Alors, je reviens vers vous, Yves Saint-Jour. Bolsonaro remet totalement en question les rapports des scientifiques sur le climat, mais il remet également en question les récits des historiens. Qu'est-ce qui l'anime en termes d'idéologie ? À quoi est-ce qu'il croit exactement ?
Je ne crois pas pouvoir rentrer dans la tête de M. Bolsonaro. Mais je crois qu'il faut penser à la façon dont les Brésiliens considèrent l'Amazonie. Ils considèrent l'Amazonie comme leur patrimoine et leur territoire, les deux en même temps. C'est un territoire qui est à eux, Amazonia e Nossa, et c'est le patrimoine qui leur a été donné dans l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ont cette projection. Et cela depuis toujours, c'est-à-dire que tout enfant brésilien apprend cela, en quelque sorte. Et donc, bien entendu, et l'histoire du Brésil, c'est l'histoire d'un territoire qui s'étend peu à peu et qui conquiert et l'Amazonie, les Portugais d'abord, et puis ensuite le Brésil lui-même, et qui dispose finalement de ce vaste ensemble. Comme on sait, ça ne fait que les deux tiers de l'Amazonie, ça fait quand même presque 5 millions de kilomètres carrés, parce qu'il y a d'autres pays, 8 autres pays plus un, n'est-ce pas, 8 pays plus un, la France, qui sont amazoniens. Mais c'est vraiment considéré comme voilà, comme le territoire national. Et je lisais l'interview de Lula hier soir dans Le Monde, et il le dit. Non, l'Amazonie, c'est pas un bien international, c'est un bien du Brésil.
Donc,
Donc il y a évidemment ça qui est très très important. Et depuis déjà longtemps, dès Rio 1992, il y a une inquiétude brésilienne sur le fait que des gens vont s'occuper de l'Amazonie à la place des Brésiliens. Parce que, évidemment, ça devient un enjeu stratégique et environnemental. Mais pas seulement environnemental. Et ils ne voient pas venir d'un bon œil, eux qui sont très multilatéralistes, au fond, ils ne voient pas venir d'un bon œil l'intervention des autres, ni des ONG, bien entendu. Alors là, encore moins. Donc, il y a un élément qui est là, qui dit, voilà, c'est à nous, nous en sommes, nous savons ce que nous devons faire. Du coup, l'affirmation de la souveraineté permet d'occulter les réalités dont on vient de parler il y a quelques minutes.
Donc cet argument de la souveraineté nationale qui est mis en avant par Jair Bolsonaro, c'est vraiment pas du tout propre à lui, c'est il y a beaucoup de monde derrière lui en fait.
Oui, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de monde derrière lui, l'Amazonie c'est la souveraineté nationale brésilienne. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple intéressant, dans les années 2000, les Brésiliens ont formulé une politique à la fois de défense et de positionnement. Et ils ont dit, il y a l'Amazonie verte et puis il y a l'Amazonie bleue, c'est-à-dire toute la partie des côtes brésiliennes avec la zone économique exclusive. Et même plus loin, c'est Lula qui a dit, on va porter à 350 000. Et comment ils ont appelé cette mer qui de la périphérie du Brésil, l'Amazonie bleue? C'est-à-dire que, vous voyez, c'est l'Amazonie, c'est le Brésil et sa souveraineté. C'est ainsi. Donc, c'est vrai que l'essentiel, c'est d'arriver, et c'était le cas, à arriver à comprendre cette situation. Et en même temps, voilà, il y a les feux, il y a la biodiversité, il y a l'écologie, il y a l'environnement, il y a les populations, les 20 millions de personnes qui y vivent. Et tout cela, ça exige évidemment une perspective qui doit être partagée, bien sûr.
Alors Vincent Debreuil, l'Amazonie, on le sait bien, ça n'est pas que le Brésil. Comment agissent les pays voisins? Est-ce qu'ils sont plus soucieux de l'environnement? Est-ce que la forêt amazonienne se porte un peu mieux autour du Brésil?
Alors moi, je suis quelqu'un qui travaille dans l'Amazonie brésilienne, donc je connais un peu moins bien les autres pays. Ce que je peux dire, c'est qu'en regardant les cartes qui ont été fournies récemment par l'Institut spatial brésilien sur les feux, sur la déforestation, on voit que le phénomène ne concerne pas que le Brésil. En Bolivie, par exemple, on a plusieurs foyers importants qui montrent que là aussi, les feux, la déforestation continuent à un rythme assez inquiétant.
Et alors, pour en revenir au Brésil, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Qu'est-ce qui a le plus d'effets négatifs sur la forêt amazonienne? On entendait le reportage sur l'orpaillage illégal, sur l'exploitation agricole. Qu'est-ce qui est le plus nocif et le plus préoccupant aujourd'hui?
Un petit peu tout ça. Effectivement, il y a la question de l'orpaillage. Il y a tous les facteurs qui font que la déforestation peut reprendre, que ce soit pour l'élevage, que ce soit pour la production de commodities comme le soja. Ça pose toute une série d'inquiétudes. Yves Saint-Jour le disait en termes de biodiversité. 15% de la biodiversité mondiale se trouve dans l'Amazonie brésilienne. Ça pose des questions en termes de communautés indigènes. Là aussi, bien montré dans le reportage, on a des enjeux très forts par rapport aux terres indigènes. Ça pose des questions en matière de changement climatique, avec la question du recyclage de l'eau par la forêt, qui pourrait éventuellement avoir un impact à la fois régional et peut-être global. Donc c'est tous ces enjeux-là qui sont extrêmement importants pour le Brésil et au-delà.
Une question d'Olivier Poujade.
Oui, justement, sur ce constat climatique sur lequel vous travaillez dans l'Amazonie brésilienne, est-ce qu'il faut être alarmiste aujourd'hui, Vincent Debreuil? On en est où? Est-ce que c'est une forêt qui est en train de mourir et qui ne pourra pas se renouveler, comme le prétendent certains scientifiques brésiliens?
Alors, c'est un grand débat dans la communauté scientifique, effectivement, puisque certains modèles, pas tous, mais certains disent qu'effectivement, l'Amazonie serait près d'un point de basculement. En tout cas, la partie sud et la partie orientale de l'Amazonie arriverait près d'un point où le taux de déforestation et le réchauffement climatique cumulés généreraient une situation dans laquelle la forêt ne serait plus en mesure de s'auto-entretenir. C'est-à-dire qu'une fois que la forêt serait coupée, on aurait un processus de savanisation. C'est-à-dire que la forêt ne repousserait pas et la végétation qui la remplacerait spontanément serait la savane. Donc c'est un point qui est discuté, tous les modèles ne sont pas unanimes, mais effectivement beaucoup de scientifiques brésiliens, anglais, beaucoup de scientifiques anglais ont travaillé sur cette question-là, ont avancé cette question de point de rupture, de point de basculement de l'Amazonie méridionale et orientale. Et alors c'est la région où on travaille dans le Mato Grosso, qui est donc l'Amazonie méridionale, la région du front pionnier, la région où le soja est devenu la principale activité, hein, un tiers du soja brésilien vient du Mato Grosso. Et dans cette région, on a effectivement observé un changement climatique assez important, une augmentation des températures, là, qui est très spectaculaire, une diminution des précipitations, pas tant en volume, mais plutôt une réduction de la saison des pluies, donc une saison sèche qui s'allonge. Donc ça, on le mesure. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on interroge les producteurs, quand on interroge les communautés, les gens perçoivent ça. Et donc, ils se posent pas mal de questions sur... Est-ce que les activités qu'on développe à l'heure actuelle seront encore viables dans les décennies qui viennent avec ces changements que nous sommes en train d'observer et de subir? Donc on a des enjeux effectivement assez importants dans cette partie méridionale, surtout de l'Amazonie.
Donc pour vous, il y a une réelle urgence à intervenir. Est-ce qu'on a une échéance par rapport à cette sorte de prévision d'un moment où ce sera trop tard?
Alors, le point de bascule qui est souvent avancé, c'est 40% de déforestation, qui serait le point de non-retour, et 2 degrés de réchauffement climatique global, alors qui localement peut se traduire par un réchauffement plus ou moins fort. Alors, on n'en est pas loin, puisqu'on est à un réchauffement global à un peu plus d'un degré, on est sur une déforestation d'Amazonie qui est de l'ordre d'un peu plus de 20%, si on ajoute les espaces dégradés, on est pas loin des 40%, d'où le signal effectivement d'alarme lancé par pas mal de scientifiques disant on est très proche de ce point de bascule donné par certains modèles.
Alors Yves Saint-Jour, on a bien entendu que le Brésil lui disait mais attendez, c'est chez nous, on fait ce qu'on veut, laissez-nous tranquille. Est-ce qu'on peut se permettre au nom de la protection de l'environnement d'intervenir dans un pays qui s'y oppose?
Un diplomate, il essaye d'abord de convaincre, d'entendre et d'aller plus loin. Ben, c'est ce que on essaye de faire actuellement. Vous avez vu, au G7, il y a eu ce mouvement pour essayer de prendre une initiative internationale qui avancerait, qui permettrait d'assurer avec le Brésil, parce qu'évidemment, sans le Brésil, c'est impossible, à la fois la protection et le développement de l'Amazonie.
Alors, on n'a peut-être pas toujours mis suffisamment les formes, justement, pour que le Brésil se sente inclus dans la participation. On a entendu quelques passes d'armes entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, par exemple.
Écoutez, en tout cas, c'est clair que le président brésilien n'a pas mis les formes. Ça, c'est tout à fait clair. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'États, on l'a vu dans l'aide d'urgence et qui a été acceptée par la Bolivie, par exemple, par d'autres pays. Il y a beaucoup d'États qui sont très désireux de faire quelque chose. Il y a une perspective, on verra si ça marche, au moment de la conférence climat qui va être faite bientôt, et dont le président chilien sera le leader, pour prendre une initiative très multilatérale. Donc, c'est vrai que on est dans une situation où il est très, très important d'agir. Alors, Rio 1992, Rio plus 20, c'était des actes très coopératifs de ce point de vue. Et puis la COP 21, c'est un acte très coopératif aussi. Et jusqu'à présent, le Brésil n'est pas parti de l'accord. Donc il faut espérer que y ait cette capacité multilatérale de travailler ensemble, dans le respect évidemment de ces lignes rouges que j'évoquais tout à l'heure. C'est vraiment très important pour les semaines et les mois qui viennent.
Olivier Poujade.
Alors, Monsieur Saint-Jean, vous n'êtes plus ambassadeur, vous l'avez été, vous avez travaillé avec les Brésiliens. Aujourd'hui, quand on entend le discours climato-sceptique d'Ernesto Araújo, qui est le chef de la diplomatie brésilienne, est-ce que diplomatiquement, le dialogue est encore possible?
De toute façon, les diplomates sont là pour dialoguer quand personne d'autre ne dialogue. Donc, le dialogue, il est toujours possible. Mais c'est vrai qu'il y a eu, par rapport à la période où j'étais là, puisque précisément, j'étais là pour Rio plus 20, j'étais là au moment où on a préparé on préparait déjà une COP qui n'a pas marché, celle de Copenhague, et ensuite la COP 21 qui a fonctionné. Donc je vois bien qu'il y a un changement d'ambiance dramatique, je le pense. Et ça n'est pas facile aujourd'hui d'être dans ce dialogue. Mais il faut continuer, et comme je le disais, tous les ponts ne sont pas coupés. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire, et c'est ça qu'il faut essayer de faire, évidemment, avec les Brésiliens, puisque ils sont comme je l'expliquais, voilà, ils sont en Amazonie, c'est leur Amazonie.
Merci beaucoup Yves Saint-Jour, merci Vincent Dubreuil depuis le studio de France Bleu Armorique. Bolsonaro, l'Amazonie en ligne de mire. Le grand reportage de cette semaine était signé Olivier Poujade et Gilles Gallinaro, avec un remerciement à Sarah Cozzolino, à la réalisation Annie Bro et à la technique Inès De Bruyne. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr. Sur le site également, une version vidéo de ce reportage en Amazonie.